Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et également sur internet www.rdwa.fr. Je suis avec Christian Rey, bonjour.
Bonjour Radio DWA.
Alors, je te saisis hein, à la sortie même au lendemain d'une conférence pour la publication d'un nouvel ouvrage dont tu es l'auteur. Il s'appelle « Quand brûler les villages, la question de nos habitats en toit de chaume notamment ». Pour commencer, je voudrais qu'on rappelle un petit peu qui est Dea Augusta, avec qui d'ailleurs il y a publication, hein, cette association.
Oui. Alors Dea Augusta est une association loi 1901 qui existe depuis une vingtaine d'années, qui milite fortement pour la conservation des remparts de Die et d'une façon générale du patrimoine bâti de l'ensemble du Diwa, et qui depuis quelques années publie la revue Chronique du Diwa et depuis maintenant 2 ans publie régulièrement différents ouvrages ayant trait à l'histoire régionale du Diwa.
Alors, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était sur le loup. Hein.
Effectivement, c'était sur le loup à l'occasion de la fête de la Transhumance 2015.
Combien d'ouvrages Dea Augusta a pu publier dans le cadre de ses recherches historiques, justement?
Alors, au niveau de la revue Chronique du Diwa, paraît aujourd'hui même le numéro 24, donc la revue a 12 ans d'existence. Et quant aux publications de livres, nous nous y sommes lancés en 2013 et cet ouvrage est le quatrième, finalement, de la collection. Après l'éradication des loups, suivi de images et regards sur Die par les photographies anciennes et notre publication de l'année dernière, le Diwa dans la Grande Guerre.
Comment ces publications sont reçues? Je parlais un petit peu d'histoire, de patrimoine. Comment sont-elles reçues par les historiens ou les archivistes, tout cela?
Eh bien, avec les archivistes, nous avons d'excellentes relations parce qu'il faut aller dans les services d'archives justement pour trouver la documentation nécessaire à l'écriture, à la recherche thématique. Nous faisons du travail d'amateur, mais d'amateur entre guillemets éclairé, qui avons une certaine passion, mais qui essayons de travailler avec une certaine rigueur en nous entourant systématiquement de conseils de professionnels, qu'ils soient historiens, archivistes, conservateurs de musées ou autres.
Et ces archives sont accessibles pour n'importe qui à partir du moment où on a envie de faire des recherches, réellement ?
Absolument. Toutes les archives en France sont des archives publiques. Les archives départementales sont sous l'autorité du Conseil général, mais il existe également des dépôts d'archives dans les mairies. Et ces archives sont absolument consultables par le public de façon très simple. Les seules restrictions qu'il y a à la consultation, ce sont essentiellement les consultations d'état civil qui ne peuvent se faire qu'au bout d'un certain nombre d'années, un siècle je crois. Mais pour les archives anciennes, il n'y a pas de problème, on peut consulter. Et ces archives sont particulièrement intéressantes parce qu'elles couvrent absolument tous les domaines de l'évolution de nos sociétés.
Ces 4 ouvrages cités tout à l'heure, les uns après les autres, montrent une assez étonnante quand même diversité. Comment vous avez choisi ces sujets-là particulièrement?
Alors pour choisir les thèmes, on le fait, j'allais dire, c'est pas le hasard, mais, mais presque. Nous sommes un petit groupe à travailler, à échanger. Chacun travaille de façon individuelle, mais nous nous rencontrons assez régulièrement. Et fonction des découvertes que l'on peut faire, ça peut être une photographie, ça peut être un document d'archives, ça peut être une coupure de presse ou simplement un témoignage qui nous revient par un lecteur de la revue Chronique du Diwa. Les gens attirent notre attention et souvent un des auteurs potentiels, ça fait tilt quelque part dans sa tête et il regarde un petit peu ça de plus près. Pour Quand brûler les villages, j'avais une motivation particulière par mon ancienne profession.
Pompier,
voilà. Et j'ai trouvé que c'était une thématique intéressante. Non pas l'incendie en tant que tel, qui relève peut-être du fait divers, mais surtout, on voit qu'entre 1700 et 1900, beaucoup de villages du Diwa ont brûlé et systématiquement on reconstruisait avec les mêmes matériaux et 10 ans après, le village rebrûlait à nouveau. Ça entraînait une pauvreté, importante des populations. Et il a fallu pratiquement 2 siècles pour se débarrasser de ces toits en chaume très sensibles et les remplacer par d'autres matériaux. Donc c'est au travers de cette aventure des toits de chaume, c'est l'histoire de l'évolution de notre société, particulièrement au XIXe siècle, qui est intéressante à traiter.
Alors Christian Rey, quand on part sur le sujet des toits de chaume ou des villages qui brûlent, on ouvre une porte à donc 2 siècles donc, d'histoire. Qu'est-ce qui est frappant au-delà même de ces matériaux dont on va parler après ?
Eh bien, ce qui est frappant, c'est de voir l'extrême pauvreté des populations du Haut-Diois et du Vercors au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, et surtout de voir l'impact de la Révolution sur la société française et surtout des régimes politiques qui se sont mis en place à la suite, particulièrement le Premier Empire et le Deuxième Empire, qui ont permis de faire des progrès considérables dans la modernisation, en quelque sorte, de notre région et de la France en général.
Cette pauvreté était donc due au fait que les villages brûlaient régulièrement ou c'est parce qu'ils étaient pauvres qu'ils étaient mal construits ?
C'est la conjugaison de plusieurs facteurs. Il faut penser qu'au XVIIIe siècle et au début du XIXe, le Diois est une région particulièrement isolée. Le Claps de Luc s'est effondré en 1443 et depuis cette période-là, il n'y a plus de communication pratiquement avec les Hautes-Alpes, si ce n'est pour les convois militaires, mais il n'y a plus de commerce. Donc ça limite le développement de l'industrie, ça limite également l'exportation des productions agricoles. Et puis, il faut penser également qu'avant la Révolution, ces populations sont soumises à un régime politique qui, quelque part, les exploite beaucoup. Donc, tous ces facteurs font que les gens sont pauvres parce qu'ils n'ont pas suffisamment de revenus liés à leur travail et ils se contentent de vivre dans des masures, quelque part, et dans des villages où règne la promiscuité.
Donc toutes les maisons sont collées les unes aux autres, tout ça pour essayer de faire un bloc, un peu de tenir.
Exactement.
Quand même, parce que, ouais.
Dans tous les hameaux, les maisons sont collées les unes aux autres, les rues sont particulièrement étroites. C'est également vrai dans les bourgs, hein. Il n'y a qu'à se promener dans les rues de Châtillon ou dans certains quartiers de Die, on le comprend tout de suite. Donc les maisons sont très proches les unes des autres. Elles ont plusieurs usages. Au rez-de-chaussée, généralement, on trouve soit un petit troupeau, soit des animaux de trait. À l'étage, c'est le lieu de vie. Et en dessus, on a un grenier. Et dans le grenier, bien sûr, on met des provisions, notamment de la paille, du foin, autant de matières inflammables. Si on rajoute un toit de chaume par-dessus, on comprend que les incendies peuvent détruire tout un quartier, tout un hameau en quelques minutes.
Alors, est-ce qu'il y a une étude un peu plus particulière sur les causes de ces incendies ? Sont-ils bêtement ce qu'on pense, hein, on fait du feu pour se réchauffer, et donc voilà.
Exactement, c'est un des points que je développe dans le livre. J'ai essayé de retrouver un petit peu les causes. Et on s'aperçoit que la plupart des incendies de village ont lieu au mois de juin, juillet et août.
Ah.
Et il y a une explication à ça, il y en a même plusieurs. En juin, juillet et août, c'est une période où les Diois du 18e et du 19e sont surtout des agriculteurs. Donc ils font la sieste, ils se lèvent bonne heure le matin pour aller au champ, aller au troupeau. Ils font la sieste en début d'après-midi et le soir, à la fraîche, ils vont dans leur champ jusqu'à une heure, jusqu'à ce que la nuit tombe, hein, donc très tard. Et seul reste au village ce qu'on appelle, entre guillemets, les vieux. C'est-à-dire les personnes âgées souvent de plus de 50 ans, hein, puisque l'espérance de vie à cette époque était beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et le soir, les vieux qui restent au village font cuire la soupe, donc allument la cheminée. L'énergie bois est la seule énergie disponible à la fois pour se chauffer et pour s'alimenter. Et ce qu'on peut constater, c'est que juin, juillet, août, c'est également la période la plus sèche dans notre région. Donc les toits de chaume sont extrêmement secs. Et puis en fin de soirée, il y a un effet de vent locaux qui se produit avec les petites brises qui partent du sommet de la montagne, descendent les vallées, créent un courant d'air. Du coup, la moindre étincelle qui va s'échapper d'une cheminée au moment de faire cuire la soupe peut tomber sur une toiture et avec ce petit vent local se propager très rapidement. Et comme les habitants, hormis les vieux, sont dans les champs, le temps qu'ils reviennent au village, c'est l'ensemble du hameau qui est incendié.
Ah ouais, c'est la retombée par le conduit de cheminée qui vient... Voilà.
C'est la cause principale, mais il y en a d'autres qui ont pu être identifiées. On parle beaucoup dans les textes anciens du feu du ciel. Alors le feu du ciel, ce sont les coups de foudre, hein,
oui.
Qui détruit par exemple le village des Nonnières à la fin du XVIIIe siècle. La foudre tombe sur une maison et automatiquement il y a un incendie qui se produit. Avec les rafales de vent liées à l'orage, ça propage très rapidement. Mais dans certains autres villages, je pense à un exemple sur Luce-la-Croate, on s'aperçoit que ce sont les activités telles que le forgeron ou autre qui peuvent être source d'incendie. A dit au quartier Saint-Pierre en 1743, c'est la boulangerie de la rue Dutreuil qui provoque régulièrement des incendies dans les maisons voisines. Donc c'est la promiscuité de l'habitat qu'on a évoqué il y a un instant, mais également toutes les activités humaines qui s'accomplissent dans l'habitat.
Ouais, ouais. Et le toit de chaume donc est plus efficace l'hiver puisqu'il est un peu humidifié, donc du coup il brûle pas. Et alors c'est le moment où on chauffe le plus. Pour autant, est-ce que c'est qu'une question de pauvreté que d'être forcé de devoir faire son toit en chaume? C'était une facilité. On n'avait pas réfléchi à d'autres technologies ou n'avait-on pas d'ardoise comme ailleurs?
On a réfléchi à d'autres technologies. On constate que les toits de chaume étaient essentiellement sur l'ancien canton de Châtillon-en-Diois, hein, tout le Haut-Diois jusqu'à Luce-la-Croate, et également sur le plateau du Vercors. Ce sont des zones de montagne et le matériau qui était le plus disponible, c'était la paille de seigle, puisque le seigle était aussi quelque part à la base de l'alimentation. Quand on regarde le canton de Die ou le canton de Luc, là on est déjà un petit peu plus provençal et c'est la tuile canale qui couvrait la plupart des habitations. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à plusieurs reprises, que ce soit sous l'Ancien Régime et après à la période napoléonienne, les autorités étaient bien conscientes de ce problème, parce qu'il y avait quand même des morts, il y avait des villages totalement détruits, donc les instruments de travail, etc. Mais à partir du moment où on arrive à créer des routes dans le Diois, où le chemin de fer arrive à la fin du 19e siècle, soit dans le Diois, soit sur Luce-la-Croate, eh bien là, on va mettre en place des systèmes de primes et faire en sorte que les chemins de fer acheminent des matériaux. Si on regarde le vallon de la Jarjate à Luce-la-Croate, il est couvert de tôle. C'est pas innocent, c'est parce que la voie de chemin de fer a permis l'apport de ce nouveau matériau pour couvrir les maisons et remplacer le chaume. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est à dit en 1830 qu'est née la première politique publique d'aide à l'amélioration du logement, puisqu'à l'initiative du sous-préfet de l'époque et de son conseil d'arrondissement, le conseil général de la Drôme a décidé d'accorder des primes au mètre carré de toiture en chaume remplacée par d'autres matériaux pour lutter justement contre le feu. Ça marche bien, insuffisamment. 3-4 ans après, on va compléter cette prime au mètre carré par une prime également au transport. Et c'est vraiment une des toutes premières, pour ne pas dire la première politique d'aide à l'amélioration de l'habitat en France.
C'est vérifié ça ?
Ah ben bien sûr, c'est
alors,
vérifié
ils
d'après
sont inspirés des partout.
C'est vérifié d'après les documents d'archives. Alors pour ce qui est du Diois aux archives départementales, on a les délibérations du conseil général de l'époque et du conseil d'arrondissement. Et puis j'ai essayé de faire quelques sondages en allant dans d'autres départements voisins consulter les archives départementales. Les Hautes-Alpes ont une même politique, mais elle se met en place légèrement plus tard. Ouais. Donc le Diois et la Drôme, même si on n'est pas vraiment les tout premiers, on est dans le pool de tête et c'est intéressant aussi de voir qu'au 19e siècle, toutes ces idées émergent. Ça montre que la société civile, quelque part, prend les choses en main pour moderniser le pays. Il y a un vrai brassage d'idées, il y a beaucoup d'innovations qui se font à cette époque-là. C'est particulièrement intéressant.
Finalement, j'allais faire un parallèle avec comment ça se passe un petit peu aujourd'hui, les relations politiques entre zone urbaine et zone rurale. Là, à cette période, on considère la zone rurale comme étant importante, au point de la financer pour se rééquiper ?
Tout à fait. Le département de la Drôme a accepté de mettre des primes, effectivement, pour aider le Diois. Mais à cette époque-là, donc l'époque du Premier Empire et du Deuxième Empire essentiellement, on a la volonté farouche d'industrialiser vraiment le pays, de le développer. C'est pour ça qu'on crée les routes, parce que les routes sont indispensables au développement de l'économie, le chemin de fer un petit peu plus tard également. Mais on prospecte dans tous les domaines. Ainsi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Quand on met des primes pour remplacer le chaume, on essaye également d'embaucher des géologues qui vont exploiter le terrain dans le Vercors, dans le Haut-Diois, pour voir s'il y a des terres propices à la fabrication de tuiles. L'idée étant que si on arrive à créer des tuileries sur place, non seulement l'opération coûtera moins cher aux contribuables, mais également on va fournir du travail à un certain nombre de saisonniers agricoles qui pourront, l'hiver, par exemple, fabriquer des tuiles quand ils ne sont pas employés aux travaux des champs. Donc, il y a toute cette dynamique qui consiste à donner du travail à la population. La France, à cette époque-là, veut vraiment s'enrichir, mais avec le souci également de faire dans le domaine social.
Ouais, et puis que tout le monde s'enrichisse finalement.
Exactement, que tout le monde s'enrichisse, c'est ce que j'appelle l'aspect social des choses.
Bon, bah, je l'ai ressouligné alors. Donc tout le monde au même niveau. À partir de quand cette politique et puis tout ce qu'on vient de dire un petit peu mêlé devient probant?
Ouais, alors ça commence en 1830 cette politique et on peut constater qu'à partir de 1845, soit 15 ans après, dans la plupart des villages, les toits de chaume ont disparu au profit de la tuile. Il y a d'autres facteurs qui ont joué, à savoir que comme c'est l'époque un petit peu de la révolution industrielle en France, beaucoup d'habitants des villages du Haut-Diois, du Vercors, partent dans les grandes villes, travailler dans les usines ou les manufactures qui se créent. Et de ce fait, il y a un certain nombre de hameaux qui se trouvent désertés par les habitants. L'habitat a tendance à venir au bord des nouvelles routes. Hein, c'est le cas, par exemple, d'Aix-en-Diois qui descend dans la vallée qui crée Pont-de-Car. On assiste à ce phénomène un petit peu de partout. Du coup, les villages un petit peu éloignés, les hameaux de montagne sont abandonnés. Il n'y a plus besoin d'entretenir ces maisons. Les gens construisent du neuf et les revenus qu'ils ont peuvent être utilisés pour améliorer l'habitat ancien qu'ils conservent en remplaçant le chaume par de la tuile, par de l'ardoise dans certains hameaux du Haut-Diois, mais également par la tôle qui fait son apparition.
On connaît aussi dans le Vercors et dans le Diois des hameaux qui ont été complètement abandonnés, parfois pour des questions de glissement de terrain tout simplement ou de ces choses-là. Il y a aussi quelques hameaux qu'on pourrait citer là qui ont été abandonnés de cette période d'exode rural là.
Ben, j'allais dire le plus connu dans le Diois, oui, bien que son abandon se termine au moment de la guerre de 14, c'est Crayé.
Ah oui.
Crayé et l'ensemble des hameaux qui étaient sur le plateau de Crayé à l'époque, quoi. Mais il faut voir que l'incendie, c'était quelque chose d'absolument terrible. Il y a des villages, je pense à Menet par exemple ou à Grimone, ce sont des villages qui brûlent pratiquement tous les 10-15 ans. Ça veut dire concrètement que les familles perdent tous leurs biens, la maison, les instruments de travail, le cheptel. Parfois, il y a des morts. Et à peine ces familles arrivent-elles à se relever avec l'aide de la solidarité publique, quelque part, que hop, le tout est à nouveau anéanti. Il y avait donc un vrai problème sociétal, quelque part. Hein. Et les solidarités sont un autre aspect de la question que nous essayons de traiter dans le livre, parce que là aussi, ça montre l'évolution des mentalités au fil des siècles.
Parlons un petit peu de ces solidarités, justement. Quelles sont-elles? Et l'autre question que j'ai envie de poser, quand même, c'est dingue de laisser brûler sa maison tous les 15 ans sans se dire « Bon, allez, je vais taper ma pioche et je me sors des dalles de Grimone. » En plus, ils ne sont quand même pas au menet. Il y a du calcaire pas loin, là.
Alors, on construit effectivement des maisons en calcaire, mais les pierres calcaires ne vont pas brûler. Par contre, dans tous ces villages du Vercors ou du Diois, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de sable et que la fabrication du ciment coûte cher.
Ah.
Donc, on va remplacer le sable par une mauvaise terre locale et on va mettre très, très peu de ciment. Pour fabriquer du ciment, il faut prendre la pierre calcaire et il faut prendre du bois. À cette époque-là, il n'y a pratiquement pas de forêt communale. Le Diois est relativement désert. Ouais. Et sous l'ancien régime...
Très cultivé, d'ailleurs, jusqu'à très haut. Hein. On connaît des photos de... Enfin,
tout
pas
à
des
fait.
Photos, mais...
Ça sera un de nos prochains thèmes, d'ailleurs, au niveau des livres.
Ah,
et...
super.
Et par contre, pour faire du ciment, donc, il faut des bois. Et les bois sont soit propriétés sous l'ancien régime des religieux, soit des nobles. Et l'accès de la forêt est pratiquement interdit pour l'usage des citoyens qui ne sont pas encore d'ailleurs des citoyens, enfin pour les villageois de base. Néanmoins, sous l'ancien régime, il faut comprendre aussi que la France n'était pas gouvernée de façon uniforme.
Oui.
Hein, il y avait des provinces. Le Diois appartenait à la province du Dauphiné avec le département de l'Isère, des Hautes-Alpes et bien sûr de la Drôme. Et l'intendance du Dauphiné, au XVIIIe siècle, a mis en place un certain nombre d'aides. C'était essentiellement des dégrèvements d'impôts qui concernaient l'ensemble du village qui avait subi un incendie. Hein, ça permettait aux gens de payer moins d'impôts, donc quelque part de disposer davantage de fonds propres pour reconstruire. À partir de la Révolution, le conseil général de, enfin le directeur du département de la Drôme, c'est ce qui précédait le conseil général, va mettre des aides aux personnes sinistrées. Et là, on s'aperçoit, c'est toute l'œuvre de la Révolution quelque part, que ces aides vont tenir compte des revenus des personnes. Autrement dit, un riche incendié, on va lui donner relativement peu en aide. Par contre, un pauvre, on va fortement l'aider. Donc, c'est quand même une évolution considérable des mentalités. Et puis après, on aboutit en 1830, là, les primes ou autres. Avec, vers 1850, un autre élément important, c'est la création des assurances. Les premières assurances grand public sont des assurances incendie. Et ce sont des compagnies qui sont basées sur le principe de la mutuelle. Donc, c'est les citoyens qui se groupent entre eux pour créer leur propre organisme de solidarité, quelque part.
Ah, la création des assurances, c'était pour le feu, en fait.
Essentiellement, oui. Ouais. D'où les petites plaques métalliques qu'on peut observer encore sur oui. certaines portes, dans les rues de Die et dans les rues des villages, qui attestent que la personne propriétaire de l'immeuble est bien assurée contre ce risque.
Et donc, on parlait de solidarité. Alors, dans un village, comment ça se faisait? Est-ce que c'était le village d'à côté? Reprenons le cas de Menet ou de Grimone, plutôt isolé, qui brûle. Que se passait-il?
Ah oui, quand on a des incendies, par exemple, Menet, Grimone ou autre, on s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, les habitants de Châtillon souvent se mobilisent pour fournir du pain. Les premières semaines qui suivent l'incendie, les Châtillonnais se mobilisent, ils fournissent du pain aux personnes sinistrées. Et puis après, ben, j'allais dire, c'est variable selon les régions. À Grimone, les gens ont de la chance, ils ont un seigneur au XVIIIe siècle qui est peut-être un peu plus social que les autres et qui va, sur ses fonds propres, accorder des petites primes aux habitants pour les aider à repartir. Mais il sait aussi que ces habitants sont ceux qui travaillent ces terres, alors ce n'est pas tout à fait innocent. Au XIXe siècle, on connaît mieux la problématique de la solidarité avec un certain nombre d'organismes qui vont se mobiliser dès qu'il y a un incendie. Alors ça peut être le sous-préfet de Die qui, via la presse locale et régionale, va lancer des appels à souscription publique. C'est un phénomène qu'on peut relever également au niveau de l'Église catholique, qui va fortement se mobiliser quand il y a un incendie à mener ou autre. L'évêque lance un appel dans toutes les églises de la Drôme pour que les catholiques donnent un petit peu d'argent pour aider les sinistrés à reconstruire. Enfin, la solidarité se manifeste sous différentes formes et... C'est une note qui est quand même un petit peu optimiste, je pense.
Ouais, ouais, c'est. On oublie hein, aujourd'hui ce genre de plan. On sait que les assurances, d'ailleurs, n'hésitent pas à saigner la personne sinistrée d'un incendie, par exemple. Alors que s'il n'y a plus de solidarité derrière, hein. Cet ouvrage donc est maintenant disponible. C'était sa parution donc jeudi hier.
Voilà, tout à fait. Donc il est disponible sur Die à la librairie Mosaïque et à la presse du Viaduc, et il peut également être disponible au musée de Die pendant ses heures d'ouverture et auprès de l'association Dea Augusta et de son site internet deaaugusta.com, si j'ai bonne mémoire, où on peut le commander sur l'adresse courriel du site.
Alors, comme c'était une conférence donc le 17 décembre pour annoncer sa publication, Christian, est-ce que c'est important de présenter aussi ces ouvrages à l'oral, peut-être même de les promouvoir dans des collèges, dans des lycées, ou est-ce qu'ils peuvent être juste lus et ça suffit?
Nous mettons un point d'honneur à ne pas faire que de la publication, mais à expliquer également le pourquoi. Hier soir, par exemple, je présentais le « Quand brûlaient les villages » au musée de Die. Beaucoup de gens qui étaient dans l'assistance, certains ont connu la période des toits de chaume, certains ont pu raconter les techniques qui étaient employées, certains conservent des outils de cette période, et il y a même des gens qui avaient pris des photographies il y a 30, 40 ou 50 ans de bâtiments en chaume et qui vont pouvoir nous les fournir pour qu'on conserve aussi quelque part cette mémoire collective. Quand on a publié l'année dernière l'ouvrage sur la guerre de 14-18, nous avons fait plusieurs conférences ciblées en partenariat avec la médiathèque départementale d'Iouaz-Vercors au profit des collégiens, au profit des lycéens. Cette conférence, nous l'avons faite également dans un certain nombre de villages, je pense à Romeillé, à Lèche-en-Diois, à Beaurières encore récemment. Et chaque fois, le fond du thème est le même, c'est le Diois dans la Grande Guerre, la vie des gens à l'arrière. Et chaque fois, le livre, bien sûr, sert de support, mais quand on donne une conférence dans un village, on va faire un petit tour à plusieurs aux archives communales auparavant pour pouvoir illustrer notre propos avec des éléments locaux. ce qu'on constate, c'est que les gens sont friands de leur histoire. Et là, on a deux publics différents. Il y a ceux qui ont vraiment des racines d'Iwaz par la famille ou autre, donc qui sont intéressés à la vie de leurs ancêtres. Et puis, il y a les nouveaux arrivants dans la région qui souvent viennent de grandes villes ou autres où ils n'avaient pas vraiment la notion de racines. Quand ils arrivent dans notre région, souvent, ils en tombent amoureux et ils ont besoin aussi de trouver justement des racines chez nous et ils s'intéressent beaucoup à ça. Alors, le livre est un support qui permet de voir les choses à tête reposée, de les mémoriser, de le consulter de temps en temps. Mais le contact direct par des conférences ou autres, c'est quelque chose d'important parce que non seulement ça permet de communiquer ce qu'on a pu apprendre, mais surtout, c'est le public qui, chaque fois, nous apprend beaucoup et nous donne de nouvelles pistes. C'est un vrai échange, comme on fait ce matin ici à Radio Diwa.
Du coup, on devient historien passionné. Ça te prend combien de temps, Christian Rey, cette histoire?
Combien de temps pour rédiger
dans ta vie, dans l'histoire et, et le patrimoine?
Eh bien, j'allais dire, moi, ça me prend beaucoup de temps. Mais bon, étant à la retraite, voilà, je fais presque. J'ai remplacé mon temps professionnel par presque un plein temps associatif avec. La recherche en histoire et patrimoine local du Diwa et en m'occupant de plein d'autres associations à côté aussi, parce que je crois que quand on a eu la chance de travailler dans le service public, on a pu acquérir un certain nombre de savoir-faire, de connaissances, de relations ou autres. Et je trouve que c'est important à la retraite de rendre finalement à la société tout ce qu'elle a pu nous apporter à l'époque où on pouvait bosser.
Bah alors merci pour tout ça. En tout cas, cette recherche en histoire et en patrimoine est très correctement vulgarisée. Moi, je m'étais fait offrir l'éradication des loups. Ça se lit super facilement. Donc j'imagine que ce nouvel ouvrage, quand brûler les villages, sera du même acabit.
Mais oui, je pense que tu vas pouvoir le lire rapidement d'ailleurs, parce que je l'ai amené pour Radio Diwa.
Ah bah super, merci beaucoup.
Voilà. Merci, et puis que Radio Diwa continue comme ça à promouvoir la culture populaire, c'est quelque chose qui est essentiel. Par les temps qui courent, développer les connaissances des gens, leur esprit critique ou autre, c'est quelque chose d'essentiel. Le sécuritaire, d'accord, mais l'esprit est tout aussi important, si ce n'est davantage.
Merci Christian.
Au plaisir.
Interview.
Okay, the bird.
Interview. L'interview du jour.